que vous co-signez. Vous êtes trois réalisateurs. Vous allez nous dire un petit peu comment vous avez travaillé avec Sylvain Lepetit et Sébastien Séga. On dit bien Séga. C'est intéressant parce qu'en fait, quand on regarde un peu vos trajectoires, vous avez surtout beaucoup tous travaillé sur le Moyen-Orient, sur d'autres questions que les questions environnementales et cette question des insectes. Comment vous vous êtes réunis et avez-vous eu l'idée de travailler sur ce film ensemble?
Merci beaucoup. Merci déjà aussi au public d'être venu le matin voir un film qui n'est pas nécessairement une source de bonne humeur. Donc déjà, voilà, merci. Donc nous, on travaille en effet beaucoup plus sur le Moyen-Orient d'habitude. Et ce film, le journaliste du Monde qui intervient régulièrement a écrit un livre qui s'appelle « Et le monde devint silencieux ». Et donc l'idée était de faire une adaptation vidéo de ce livre qui nous a touchés, qui a touché les producteurs. Et du coup, ça nous permettait aussi, nous, de sortir un peu du terrain qu'on connaissait, de se renouveler, de réfléchir à des nouvelles manières de filmer. Enfin voilà, c'était des nouveaux défis. On avait plus l'habitude de tourner à Mossoul, à Raqqa ou les manifestations en Algérie. Et donc là, de devoir réfléchir à tout ce monde finalement, où pour nous, le gros défi était de faire passer de l'empathie envers ces insectes. Parce que voilà, ils ne crient pas. On les voit se débattre, mais ils sont tout petits, il faut un microscope quasiment pour assister à leur mort. Alors que bon, des grands animaux, quand ils disparaissent ou qu'ils ont des maladies, c'est vrai que ça se voit, c'est facile de sensibiliser, on va dire, le public ou les politiques à ce qui leur arrive. Alors qu'avec les insectes, on a vraiment cette disparition en masse, mais discrète. En plus, du coup, c'est des invertébrés, donc il ne reste rien. Quand ils meurent, ils se décomposent et il n'y a pas d'os, il n'y a pas de cadavres, ce qui permet aussi aux industries de l'agrochimie de se disculper en disant bien non, évidemment qu'il n'y a pas de problème, regardez où sont les corps. Donc voilà, c'était une manière de parler d'un thème important à nos yeux, important pour l'avenir, et voilà, et qui malheureusement a été beaucoup couvert par les médias, mais comme le disent les intervenants, d'un côté, il y a du coup, voilà, quelques sujets ou articles qui critiquent les pesticides, et de l'autre, il y a aussi toutes ces études, tous ces articles qui, eux, disent qu'il y a d'autres causes, qui sont vraies aussi, et c'est là où c'est subtil, mais qui sont mathématiquement, scientifiquement, moins impactantes que les pesticides.
Alors, le public a la possibilité aussi de s'adresser directement à vous si des personnes ont envie de prendre la parole. On a pas mal de scolaires aujourd'hui et ça peut aussi résonner avec des enjeux générationnels. On l'entend dans le film, on va jusqu'à dire que c'est un crime contre nos enfants, nos futurs enfants, ce qui est en train de se passer. Est-ce que vous avez le sentiment, on s'empare un peu plus, de plus en plus, dans le débat public des enjeux autour de l'environnement, du réchauffement climatique. Ça commence à prendre la place que ça doit avoir. Très peu sur cet aspect-là, qui est plutôt un angle mort, en fait, d'une disparition que vous décrivez comme totale. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il peut y avoir ou qu'il y a un début de prise de conscience d'un point de vue politique de cette question-là?
J'aurais envie de vous dire que oui. Les dernières décisions politiques, soit au niveau français ou européen, ne sont pas très encourageantes, notamment le retour des néonicotinoïdes en 2020. Et on se rend compte que c'est vraiment, c'est David contre Goliath. C'est d'un côté, voilà, quelques voix, et je vais dans votre sens, hein, on a de plus en plus, la société est de plus en plus consciente des défis environnementaux, écologiques, les jeunes sont de plus en plus mobilisés. Le problème, c'est qu'au moment de voter, très souvent, bon, voilà, il y a eu des lobbies qui sont passés par là, il y a eu des députés à qui on a rappelé que ce sont quand même des emplois, que c'est une énorme masse de revenus. Et ce qui est important aussi, c'est de se rendre compte, voilà, que tout ça a été intégré. C'est ce qu'essayent de dire nos intervenants, c'est que on a beau répéter qu'il est possible de produire autrement, qu'il faut produire autrement, le son de cloche de la société de consommation, de l'agrochimie, qui est de dire non, c'est impossible de nourrir la planète sans produits chimiques. Ce son de cloche a été tellement répété et intégré que c'est dur d'aller à son encontre. Et évidemment, voilà, j'encourage la nouvelle génération à se mobiliser, à manifester, etc. Mais c'est vrai que c'est... J'adorerais que ce film change la donne et que voilà, le Parlement se réveille et interdise cette classe d'insecticides et d'autres après et se rende compte qu'il faut surtout moderniser tous les tests. Donc ça serait un rêve et j'espère qu'on apporte une pierre de plus à l'édifice. Malheureusement, je ne pense pas qu'on soit dans une situation où ça va changer du jour au lendemain.
Est-ce qu'on a peut-être... une prise de parole? Oui, juste ici.
Donc oui, merci pour votre film, qui est vraiment très, très intéressant. Je voulais savoir, au niveau de l'Italie, où il y a des productions en fait, de maïs sans pesticides, est-ce qu'ils ont constaté que des populations d'insectes sont revenues ou qu'il y ait une concentration plus importante de ces insectes dans ce milieu-là? Et est-ce qu'il y a aussi des études qui continuent sur l'impact de ces pesticides dans les fruits et les légumes qu'on peut consommer tous les jours?
Alors, sur l'Italie, oui. Ce qui est compliqué avec les études sur les insectes, c'est qu'ils se déplacent énormément. Donc, on a constaté que même en mettant des zones naturelles à l'intérieur des zones naturelles, on trouve des traces de pesticides qui ont voyagé à travers l'eau, les airs, etc. Donc, du coup, c'est dur de se dire, voilà, là, il y a un champ, donc, hop, les insectes meurent, et là, il y a une réserve naturelle, là, ça se passe mieux. Mais globalement, oui. Dans cette zone en Italie où ils font des efforts, il y a dans leur champ plus de variétés d'insectes en fait. C'est ça qui est important aussi, c'est que du coup ils ont des ravageurs, ils ont des pucerons, mais comme il n'y a pas une matière qui va tuer tous les autres insectes, en fait les prédateurs eux aussi peuvent venir. Ça prend un petit peu plus de temps, mais ils arrivent et ils vont manger les pucerons. Et c'est comme ça que l'équilibre se fait. Et c'est pour ça que l'ingénieur agronome calcule combien il y a de larves pour voir si c'est un taux où la nature va être capable de répondre à ça ou si il faut que l'homme, que la chimie intervienne pour aider à limiter le nombre de ravageurs. Concernant votre question sur les fruits et légumes, il y a des études qui sont faites en permanence. J'ai pas d'exemple en tête à vous dire. Donc évidemment, les études continuent. Là, les angles qui sont le plus étudiés par rapport aux néonicotinoïdes, c'est du coup les effets sur les humains. Parce que pendant longtemps, du coup, les scientifiques, les laboratoires, on va dire, côté agrochimie, les mettaient en avant en disant regardez, c'est génial, ça ne touche que les insectes. Les mammifères ne sont pas affectés, les poissons ne sont pas affectés, les êtres humains ne sont pas affectés. Et là, on se rend compte petit à petit qu'il y a des effets à long terme, mais qui sont beaucoup plus durs à calculer vu qu'ils ne sont pas mortels immédiatement. Voilà, ça va être comme d'autres produits cancérigènes. Ça va être la confrontation permanente, l'accumulation petit à petit qui fait que ces produits sont dangereux pour la santé.
Est-ce que parmi les scolaires, quelqu'un aurait envie de partager un peu son sentiment à la fin de cette projection? Il n'y a pas d'obligation, hein, mais c'est toujours intéressant aussi d'entendre un petit peu à chaud comment on sort d'un film comme celui-là. Oui, là-haut? Ici. Là-haut, c'est ça? Je ne vois pas très bien. Ici, on a une question, et en haut, je crois aussi. Et alors, en attendant, je vais donner le micro devant.
Merci pour votre film. Je voulais savoir, parce qu'on avait vu un député européen qui avait subi des pressions. Est-ce que vous en avez subi par rapport à votre reportage?
Alors, nous, l'équipe de réalisation vidéo, non. Parce que, comme le rappelait ma collègue Sherazade, c'est ça. Voilà, nous, on n'est pas spécialisés sur les sujets agrochimie à la base. Donc, du coup, c'est, comme c'est la première fois, on n'a pas eu de pression parce qu'on n'est pas codu. Par contre, le journaliste du Monde, Stéphane Foucard, qui intervient, qui, lui, suit et couvre cette actualité depuis des années et des années, lui est régulièrement victime de pression, d'emails. Il fait partie, lui aussi, de la liste des personnalités à surveiller par Monsanto. Et ce dont on nous a averti, par exemple, c'est qu'il y a le film devait être diffusé au printemps et a été repoussé par Arte à cause de la guerre en Ukraine, donc il n'a pas encore été diffusé. Donc vous assistez en fait à l'avant-première française. Voilà, ça disait, soit dit en passant. Et donc on nous a averti de faire attention aux réseaux sociaux, que voilà, on risque d'être, suite à la diffusion, très critiqué, enfin au-delà de la critique, quoi, d'être vraiment traîné dans la boue sur les réseaux sociaux par plein de réseaux assez organisés qui défendent l'agriculture conventionnelle. Donc on y est un peu préparé. Je pense que ce qui nous aide, c'est ce côté justement d'être nouveau sur ce type de thématique. Mais voilà, les journalistes qui suivent ça de manière régulière disent que c'est très dur psychologiquement, qu'on a beau le savoir, que quand on se fait harceler, critiquer, insulter à longueur de journée sur les réseaux sociaux, dès qu'on publie quelque chose qui est pourtant scientifiquement plutôt prouvé, voilà, que c'est dur à vivre.
D'ailleurs, on va peut-être terminer avec ça, mais vous le précisez à la fin, vous mettez une note en disant que tous nos propos, en gros, sont étayés par des études qui sont publiques et que vous pouvez aller consulter. C'est aussi une manière d'anticiper ces attaques-là.
Oui, oui, c'est exactement ça. Et on dit aussi, voilà, qu'on a voulu donner la parole à Bayer, à BASF, au syndicat de l'agrochimie. Et certains ont répondu à nos mails, mais à chaque fois, en se renvoyant la balle, en disant nous, on n'est pas le principal vendeur de néonicotinoïdes, donc ce n'est pas à nous d'intervenir. Ou allez voir notre syndicat, c'est eux qui sont là pour ça. Qui, eux, nous renvoient des mails en disant non, on n'a rien à dire, nous respectons toutes les règles européennes. Et en plus, c'est vrai, les règles de mise sur le marché européennes sont respectées. Le problème, c'est la définition de ces règles. C'est, est-ce qu'elles sont valables? Est-ce qu'elles protègent la nature, le consommateur, les citoyens européens? Et la réponse est non, malheureusement.
Un grand merci, Miyuki. Merci d'être venu au FIGRA et à Douai. Vous pouvez continuer de la croiser dans les couloirs du FIGRA. Vous restez encore quelques jours avec nous ? Très bien. Mais en tout cas, merci d'être venu. Nous allons poursuivre dans cette salle. Donc, je ne sais pas s'il y a des sorties de salle. C'est le moment pour ceux qui doivent, celles et ceux qui doivent aller voir un autre film. Sinon, vous pouvez rester avec nous pour la suite. On reprend dans quelques minutes. Et je vous rappelle que vous pouvez toujours donc voter pour les films de la journée avec le bulletin qu'on vous a remis et que vous êtes invité à remettre ensuite dans l'urne transparente au moment de quitter la salle.